Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui un enseignement pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la synodalité, ce mode de fonctionnement et d'où il provient. L'origine est le Christ. Il est le Fils du Père, la parole du Père qui s'est fait chair, qui est entré dans notre histoire. En lui, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 9, en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Jusqu'au bout de son humanité réside, agit, resplendit la vie de Dieu. Et l'objectif de l'envoi du Fils par le Père est que nous puissions participer, partager, vivre de la même vie que Jésus. Pour que cela advienne, celui qui a été envoyé par le Père, Jésus, va lui-même envoyer ses disciples. C'est ce que l'on entend au chapitre 20 de saint Jean, au verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », ou encore la finale de saint Matthieu, à la fin du chapitre 28. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Le Christ est l'image du Dieu invisible, il rend manifeste le Père. Les disciples vont rendre visible la présence du Christ. Ils vont prolonger jusqu'au bout de leur chair la présence du Christ. Déjà avant la résurrection, Jésus avait formé ses apôtres à faire ce que lui-même faisait, annoncer la conversion et la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Il les avait associés à des gestes de puissance, on peut penser à la multiplication des pains, où il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », il leur faisait la place pour qu'ils agissent dans son œuvre, tant et si bien que saint Paul parlera de l'Église comme du corps du Christ. Il décrit une même vie où le Christ est la tête et où les chrétiens sont les membres de son corps. La synodalité va jaillir de ce lien. Prenons une image pour le comprendre, celle d'une porte que l'on ouvre. C'est bien sous la direction de la tête que la main ouvre la porte. On remarquera, c'est la main qui l'ouvre, ce n'est pas la bouche qui se penche pour saisir la poignée avec les dents et l'ouvrir. Le toucher est au niveau de la main. La contraction des muscles et le mouvement des doigts est au niveau de la main. Il y a une information qui provient de la main et qui va remonter jusqu'à la tête. Est-ce que la poignée est froide? Est-ce que le métal est chaud? Est-ce que le mécanisme résiste ou au contraire coulisse aisément? La tête ne fait pas tout, mais elle est en lien avec tous et elle permet leur coordination. Gardons cette image en tête pour observer maintenant comment le Christ institue et organise le collège des apôtres. On se souvient, par exemple en Luc 6, verset 13, que Jésus appela ses disciples et que parmi eux il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. On se souvient aussi qu'en Matthieu 16, autour des versets 18 et 19, Pierre reçoit une place particulière au sein de ce collège des apôtres. Il est celui sur qui le Seigneur veut bâtir son Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Simon Pierre est effectivement distingué, mis à part, mais mis à part pour être au service de l'exercice de l'autorité de tout le collège. Sa position est au service de la bonne vie, du bon fonctionnement de l'ensemble du collège des apôtres. Le Christ est le roc, mais il choisit et institue Pierre pour être le rocher sur lequel il bâtit son Église. Et vous remarquerez que Jésus dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Pierre est établi comme rocher, mais comme rocher de l'Église du Christ. Donc on sera référé, renvoyé à la personne du Christ. La position particulière que reçoit Simon-Pierre n'est pas là pour qu'il fonde une Église à lui qui serait distincte de l'Église du Christ. C'est pour ça qu'on appellera Pierre est le successeur de Pierre, le pape, vicaire du Christ, les intendants du Christ. En Matthieu 18, verset 18, on se rend compte que Jésus donne aussi aux autres apôtres le pouvoir de lier et de délier. Je cite, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, tout ce que vous délirez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. » Comment le comprendre alors? Est-ce que cela noie la responsabilité particulière qu'avait reçue Simon-Pierre? Non, de même que Simon-Pierre ne pouvait pas faire l'économie du Christ, car il était le rocher pour bâtir l'église du Christ, l'exercice de cette mission par les apôtres ne peut pas faire l'économie de Simon-Pierre institué par le Christ. La mission est en effet partagée autant que faire se peut, mais cette mission ne pourra s'exercer qu'en référence à un point d'ancrage autour duquel l'unité se fait. La mission particulière du successeur de Saint-Pierre est de favoriser, de permettre l'unité entre ses membres. Et parce qu'il fait l'unité autour de lui, il permet aussi une diversité autour de lui. Sans ce point d'ancrage, la diversité amènerait à la dispersion. Avec ce point d'ancrage, la diversité sera une richesse de l'œuvre commune. À leur tour, les apôtres, les successeurs des apôtres, les évêques, seront le point d'ancrage de l'unité de la portion du peuple de Dieu qui leur est confiée au sein de chacun des diocèses. Ultimement, le partage de la mission du Christ est donné à chacun des chrétiens sur lequel a été répandu l'Esprit-Saint et qui bénéficie d'un ancrage en la personne de leur évêque et de leurs collaborateurs, les prêtres. Regardons maintenant d'un peu plus près l'autorité du souverain pontife, du pape, et tâchons de comprendre aussi la façon dont il est appelé à exercer cette autorité. Cela nous donnera une information précieuse sur la collégialité et donc aussi sur la synodalité. Le Concile de Vatican I, qui s'est penché particulièrement sur cette question en 1870, définissait que le pouvoir du pape est à concevoir comme une primauté suprême de juridiction et comme un magistère suprême dans l'Église. La primauté de juridiction signifie que, en vertu de la volonté de Dieu, il a un pouvoir épiscopal véritable et direct sur l'ensemble de l'Église, universellement, c'est-à-dire sur tous les territoires, sur tous les évêques. Par ailleurs, en tant que docteur suprême, il possède le privilège d'être, par grâce, préservé de l'erreur quand il se prononce solennellement en matière de foi, tel que le Christ l'a promis à son Église. Cette autorité de docteur suprême a par exemple été utilisée pour déclarer le dogme de l'Immaculée Conception et celui de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est-à-dire que ces deux dogmes ont été déclarés par le pape, le souverain pontife, sans qu'il y ait eu un concile écuménique qui soit rassemblé. D'une certaine manière, il a l'autorité pour agir seul, et en même temps, il a pour mission de rendre possible et de favoriser l'action de tous. Ce n'est pas parce qu'il peut agir seul qu'il le doit, au contraire, il doit au maximum permettre à tous de prendre leur place dans l'œuvre de l'annonce de l'Évangile. Cette position, on le voit, est donc confrontée à deux dévoiements. Le premier dévoiement est ce que, dans l'histoire de l'Église, on a appelé le conciliarisme. C'était une position qui était apparue dans les XIIe, XIIIe, XIVe siècles et qui tenait que, en dehors du concile, le pape n'avait pas de pouvoir et même au contraire, le concile était supérieur au pape. Cette position a été condamnée. On a rappelé que le collège des apôtres et des évêques n'existe qu'avec et sous son chef, Pierre ou le pape, et ce n'est qu'avec lui ensemble, et non pas à côté de lui ou contre lui, qu'il constitue le collège chargé de gouverner l'Église. Le deuxième dévoiement est le refus de la subsidiarité, la subsidiarité étant le fait de confier à chacun le maximum de responsabilités qu'il est capable, effectivement, de porter. Le refus de la subsidiarité, en fait, est un mépris des talents que Dieu a dispensés dans son peuple, en particulier du don de l'Esprit Saint. À l'image de Dieu qui fait la place pour que nous puissions participer à son œuvre, il ne fait pas tout tout seul, il fait de la place pour que nous participions à son œuvre, alors qu'il pourrait de fait agir tout seul, eh bien, celui qui a l'autorité suprême est appelé à laisser la place chacun selon la mesure de ce qu'il peut porter. Il y a une usurpation de l'autorité quand on étouffe la subsidiarité. En définitive, la synodalité est une dimension de l'exercice de l'autorité quand elle est bien comprise. Soyons plus précis, elle est un souci de celui qui a bien compris qu'il tenait son autorité du Christ. Du Christ qui veut que tout son peuple soit saint, que tout son peuple soit un peuple sacerdotal, que tous les baptisés exercent leur sacerdoce royal. L'autorité doit donc éveiller et favoriser les dons, les talents que le Seigneur a confiés à chacun, en exhortant chacun à les mettre en œuvre. Par ailleurs, la synodalité comme démarche chrétienne doit mener au Christ. Elle mène à la vie du Christ, à vivre comme le Christ. Ce rappel est un garde-fou face à une espèce d'enthousiasme où l'on croirait que chacun exprime ce qu'il veut et n'en fait qu'à sa tête. Une synodalité qui oublierait le Christ, qui oublierait Jésus-Christ révélé dans les évangiles, qui en présenterait une figure contradictoire, est une synodalité qui s'est dévoyée, qui s'est égarée. C'est pourquoi la démarche de synodalité demeure humble. Elle accepte de s'en remettre à celui à qui le Christ a confié l'autorité, aux pasteurs, aux évêques, aux papes. Il y a à la fois une vraie liberté de proposer et en même temps une vraie humilité à accepter ce qui sera retenu, quand bien même cela ne reprend pas intégralement l'idée que nous avions poussée. L'humilité est aussi présente du côté de celui qui a reçu la responsabilité, celui qui doit trancher en définitive, car il est appelé à écouter véritablement et avec confiance l'Esprit Saint qui s'exprime à travers le peuple de Dieu et se garder de n'écouter ou de ne retenir que ce à quoi il avait lui-même pensé. C'est ce fameux travers où l'on dit « Votre idée est excellente, la preuve, j'ai eu la même ». En définitive, la synodalité apparaît comme un mode d'action voulu par le Christ, un mode d'action que le Christ a mis lui-même en place avec ses disciples. Elle est l'écho de Dieu qui fait de la place pour que nous puissions avoir une part à son œuvre. Je vous souhaite de bons échanges.